Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce vendredi, nous sommes le 10 février. Nous parlons de l'épisode de pollution aux particules fines en cours sur le bassin lyonnais. Attention à l'épidémie de grippe qui fait son retour dans la région. Nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites et nouveau parcours pour la manifestation ce week-end. Infatigable défenseur de la cause arménienne, Jules Mardirossian s'est éteint à l'âge de 85 ans. Qui était Jules Mardirossian ? Retour sur ce personnage de la diaspora arménienne avec Hilda Choboyan, la directrice de Radio Arménie. C'était il y a 80 ans tout juste, le 9 février 43. 84 personnes de confession juive étaient arrêtées par la Gestapo, dirigée par Klaus Barbie, et déportées vers les camps d'extermination. Ce dimanche, à 11h, se tiendra la traditionnelle cérémonie de la rue Sainte-Catherine. Connaissez-vous la cosmétique paysanne ? Sylvie Perrard, fondatrice de Maison Morandière à Villette-de-Vienne, nous dira tout dans ce quart d'heure lyonnais. Et puis à la fin de cette édition, le football, la Coupe de France et l'Olympique lyonnais qui recevra Grenoble en quart de finale.
Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un épisode de pollution aux particules fines est en cours sur le bassin lyonnais Nord-Isère. La préfète du Rhône a décidé de prendre des mesures d'urgence dès 17h hier soir. Les véhicules affichant une vignette critère de classe 0 émission moteur ou de classe 1, 2 ou 3 sont les seuls autorisés à circuler dans la zone à faible émission, la ZFO de la métropole de Lyon. Un abaissement temporaire de la vitesse de 20 km/h est instauré sur les axes routiers du département où la vitesse limite autorisée est normalement supérieur ou égal à 90 km/h. Les axes dont la vitesse limite est de 80 sont limités à 70. Le Citral déploie dès ce vendredi le titre de transport Ticker permettant de voyager toute la journée pour 3 euros. Des recommandations, éviter les activités physiques intenses, reporter les activités qui demandent le plus d'efforts, s'éloigner également des grands axes routiers aux périodes de pointe. Pour se renseigner, rendez-vous sur le site d'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. L'épidémie de grippe est fortement repartie dans la région. Les recours aux urgences pour syndrome grippe ont augmenté de 43% début février, 865 passages enregistrés, 130 ont été suivis d'une hospitalisation. Le taux d'incidence des cas de syndrome grippaux vu en consultation de médecine générale a augmenté de 46% en passant de 123 pour 100 000 à 179. La mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit à Lyon ce week-end. Ce samedi en particulier, 11 février, le cortège partira des Brotteaux pour arriver au niveau des gratte-ciels à Villeurbanne. Départ à 14h.
Lyon demain ? Histoire lyonnaise.
Infatigable défenseur de la cause arménienne, Jules Mardirossian s'est éteint à 85 ans. On lui doit en particulier le mémorial du génocide des Arméniens, place Antonin-Poncet. Jules Mardirossian avait ardemment travaillé sur les questions de crimes contre l'humanité. C'est toute la diaspora arménienne lyonnaise qui est en deuil. Hilda Choboyan, directrice de Radio Arménie, a longtemps travaillé auprès de Jules Mardirossian.
Jules était une figure tutélaire du groupe arménien à Lyon, mais aussi de France et au niveau international. Il a été depuis les années 70 une des figures principales de l'action politique arménienne à Lyon et en France. Jules, c'était un personnage qui avait des facettes multiples. C'était un entrepreneur au sens propre et au sens figuré du terme. C'était un entrepreneur parce qu'il avait une entreprise importante de chimie, mais à côté de cela, c'était un vrai entrepreneur dans la cause arménienne. Il a entrepris donc déjà dans un premier temps, dans les années 70, une aventure donc, dont j'ai fait partie. Ça a été la création de la Maison de la Culture arménienne à Décines, dont j'ai pris la direction bien sûr, depuis le départ. Et autour de cette Maison de la Culture, tout un ensemble de nouvelles structures ont essaimé la culture arménienne et la défense des droits du peuple arménien. Donc Jules a été un personnage central dans toutes ces actions. C'était un fédérateur. Il avait une capacité importante de fédérer autour de lui des gens, des capacités. Il a donné une nouvelle impulsion au groupe arménien pour porter le message de cette communauté sur la place publique. Donc nous, on a fait partie de cette génération. Il était un peu plus âgé que nous, mais on a fait partie de cette génération qui a sorti la communauté arménienne de son isolement, qui était tout à fait normal, puisque c'était, avant nous, c'était la génération de ceux qui avaient subi le génocide et qui se réunissaient une fois par an pour pleurer les morts. Donc, de pleurer les morts à l'exigence de recouvrer les droits des Arméniens en termes de justice, ça a été un travail important que Jules a engagé et beaucoup de gens l'ont suivi et il y a eu une génération pratiquement de gens qui ont suivi ce mouvement.
L'une de ses plus belles réalisations, entre guillemets, c'est ce monument que l'on voit du côté de la place Antonin-Poncet encore aujourd'hui, qui se matérialise par 36 colonnes, je ne sais pas comment on appelle ça, 36 arêtes, hein, qui matérialise ce mémorial du génocide des Arméniens.
Oui, et c'est une réalisation qui n'a pas été facile à mettre en place, puisqu'il y a eu énormément d'opposition à l'époque au fait que ce monument devait s'ériger en centre-ville. Il y a eu des procès, il y a eu des obstacles multiples et Jules et son entourage, je faisais partie du comité de direction de ce monument, nous avons résisté à énormément de pression. Effectivement, c'était en fait une promesse de Gérard Collomb, une promesse électorale de Gérard Collomb de faire un monument. Et Gérard Collomb est allé jusqu'au bout pour la réalisation et il a effectivement lui aussi fait face à énormément de pression et d'obstacles. Et c'est effectivement une des réalisations les plus importantes, c'est peut-être le seul monument en plein centre-ville d'une grande métropole en Europe, dédié au génocide des Arméniens.
Cette lutte viscérale pour faire reconnaître le génocide, alors évidemment ça vient de son histoire, parce que ses grands-parents avaient été massacrés en 1915.
Oui, tout à fait. Ses parents, sa mère était un rescapé. Il avait cette mémoire familiale qui avait rapporté l'assassinat de ses parents, de ses grands-parents devant les yeux de sa mère enfant. Et ça l'avait traumatisé. C'est une histoire banale chez les Arméniens. Donc cette génération a vécu avec les rescapés du génocide, nos parents. Et effectivement, ça marque à vie. Et l'engagement inconditionnel pour la cause arménienne de Jules Mardirossian, mais de plein d'autres Français d'origine arménienne vient de ce traumatisme aussi.
Hilda Tchoboyan, directrice de Radio Arménie, on ne connaît pas encore la date pour les obsèques de Jules Mardirossian. Le 9 février 43, 84 personnes de confession juive étaient arrêtées par la Gestapo lyonnaise dirigée par Klaus Barbie et déportées dans des camps d'extermination. 80 ans plus tard, la ville de Lyon organise dimanche la traditionnelle cérémonie de la rue Sainte-Catherine. Ce sera dimanche à 11h. En attendant, c'est ce vendredi que sera présenté officiellement l'appel à projet pour le mémorial de la L'appel est ouvert jusqu'au 31 juillet. Le lieu retenu par la ville de Lyon, c'est la place Carnot, près de la gare de Perrache, tristement célèbre pour les départs de convois durant la guerre.
Lyon demain, découverte.
Les produits cosmétiques, vous pouvez les acheter au supermarché, dans des commerces spécialisés, aux marques bien connues, mais vous pouvez aussi les fabriquer ou vous procurer des cosmétiques naturels et bio. C'est ce que propose Maison Morandière. Sylvie Perrard est à l'origine de cette marque de cosmétiques paysannes. Nous l'avons rencontrée pour en savoir plus sur son projet en plein développement.
C'est un peu un parcours de vie en fait. J'ai commencé à travailler en industrie cosmétique, puis en industrie pharmaceutique et j'ai toujours été, de par ma famille, dans le milieu agricole et passionnée par les animaux. Et voilà, et tout ça s'est regroupé dans le projet Maison Morandière avec l'idée de produire les plantes oléagineuses pour la fabrication des huiles, d'avoir l'élevage d'ânes pour la production du lait et avec tout ça de fabriquer des savons et des cosmétiques naturels et bio.
Ça demande quoi ? C'est une ferme classique ? C'est quoi ?
Oui, c'est une ferme classique. Sauf que les matières premières, elles sont valorisées derrière avec une production de cosmétiques, donc de savons naturels, savons solides, savons liquides. Et puis l'idée, c'est derrière de développer toute une gamme de cosmétiques avec des baumes et des crèmes, donc toujours entièrement produits à la ferme, par mes soins, voilà, et toujours 100% naturel.
Alors, quelques exemples de produits qu'on trouve chez vous.
Une gamme de savons solides au lait d'ânesse, donc pour l'instant elle est composée de 3 savons, un nature, un aux senteurs d'agrumes et un aux senteurs un peu plus fleuries, un peu plus délicates. Et en parallèle, il y a la gamme à l'huile de cameline, donc sans lait d'ânesse mais avec l'huile de cameline qui a des propriétés cosmétiques intéressantes, parce que hydratante, nourrissante et apaisante. Et donc du coup sur la gamme à la cameline, on en a aussi 3 pour l'instant, le nature, celui à la verveine et un autre provençal, l'huile essentielle de lavandin.
Quelle est la difficulté? Je crois qu'il y a des tas de certifications à avoir pour vendre un produit qui finalement se termine sur le corps.
Oui, bah ça me fait plaisir que vous posiez la question, parce que justement c'est un peu une des difficultés des savonniers, c'est-à-dire que en fait il y a toute une démarche réglementaire à mettre en place pour pouvoir mettre sur le marché un produit cosmétique, mais qui n'est pas respecté par tout le monde, malheureusement. Donc, quand vous achetez vos cosmétiques, soyez bien vigilant à ce que toute cette démarche démarche réglementaire ait été suivie par le vendeur. Et donc l'idée, en fait, c'est de documenter tout un dossier d'informations produits qui liste toutes les matières premières, comment elles, où est-ce qu'elles sont fournies, les quantités qui rentrent dans la composition, parce que tout ça est validé par un toxicologue avant de pouvoir vendre un produit cosmétique.
Et ça se reconnaît comment sur le produit ?
En fait, toutes ces démarches-là, elles aboutissent à une validation de l'étiquette par le toxicologue. Donc votre étiquette, elle est validée, mais si l'étiquette, elle n'est pas validée, enfin, c'est transparent en fait pour le consommateur. Alors il y a des petites astuces pour vérifier. Par exemple, il doit y avoir la fameuse liste des ingrédients en dénomenclature INCI. C'est les petits mots là qu'on comprend pas, les petits ingrédients qu'on comprend pas. Il doit y avoir une date limite d'utilisation après ouverture. Donc ça, c'est bien le petit pictogramme du petit pot ouvert avec un chiffre dessus qui indique la date de validité. Voilà, ça c'est des petits indices qui peuvent vous dire que le cosmétique est bien validé. Déjà que votre cosmétique ait une étiquette au moment de la vente, c'est un premier indice qui met sur la bonne voie, quoi.
À la fois, vous formez des gens pour fabriquer, peut-être pas des cosmétiques, mais des savons en tout cas.
Alors non, enfin, je forme pas des professionnels. Par contre, à mon atelier, j'organise des journées, enfin des demi-journées, où les particuliers peuvent venir en petits groupes pour fabriquer leur savon au lait d'ânesse ou leur savon à la camille. Voilà, c'est des moments de partage vraiment intéressants. C'est l'aboutissement de mon projet et vraiment, dans mon projet, il y a une vraie dimension de partage et de plaisir. Et ces ateliers à la ferme pour faire découvrir mon activité et pour fabriquer vos propres savons, c'est vraiment un des moments riches que je suis contente d'avoir pu mettre en place.
Quels sont vos projets ?
Eh bien, les projets, c'est de mettre en place la gamme cosmétique pour, avec les crèmes et les baumes pour Noël 2023. Et puis aussi, pendant cet été, j'aimerais mettre en place l'accueil de classe en ferme pédagogique. Ça, c'est les deux projets moyen terme.
Sylvie Perrard, fondatrice de Maison Morandière, installée à Villette-de-Vienne. Pour se renseigner, maison-morandière.com. Allez, sport à présent, football, la Coupe de France. L'Olympique lyonnais recevra Grenoble en quart le 28 février ou le 1er mars. Le GF 38, 5e de Ligue 2, sera en visite à Décines. Le tirage au sort a lieu hier soir. Réaction amusée sur Twitter de Grégory Doucet. On est prêt, Eric Piolle. Lyon et Grenoble sont deux villes détenues, on le sait, par les écologistes. Barcelone, Chelsea ou Wolfsburg. On saura ce vendredi qui sera l'adversaire de l'Olympique lyonnais féminin lors des quarts de finale de la Ligue des Champions fin mars. Le tirage au sort qui a lieu à Nyon aux alentours de 13h. La saison du capitaine du Loup, Jordan Tofua, touché au cervical à La Rochelle, pourrait d'ores et déjà être terminée. Il doit passer encore plusieurs examens, mais il y a de fortes chances qu'il doive passer sur la table d'opération pour retrouver les terrains. Le recrutement d'un joker médical est à l'étude. Enfin, vous voulez vous mettre la tête dans les étoiles? C'est la nuit des étoiles d'hiver. Ce week-end, l'Association française d'astronomie propose de contempler les étoiles et constellations de la voûte céleste tout au long du week-end. Le club d'astronomie des Monts du Lyonnais participe à l'événement avec deux soirées. Et ce soir et demain soir, chemin du Vachon à Saint-Martin-en-Haut. À Saint-Fond, le centre socioculturel des Clochettes propose observations et ateliers-jeux ce soir de 19h à 21h. Le musée des Confluences organise la semaine prochaine deux jours d'initiation à l'astronomie intitulé Vers l'infini et au-delà en lien avec le club d'astronomie Lyon-Ampère. Un planétarium mobile sera d'ailleurs installé dans le hall d'entrée du musée à cette occasion avec des séances de 30 minutes toute la journée des 16 et 17 février en accès libre sur réservation. Des ateliers auront lieu pendant deux jours et il sera possible aussi d'observer les étoiles au télescope et en accès libre le vendredi soir dans le jardin du musée. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais, je vous souhaite de passer un excellent week-end. On se retrouve lundi.